RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Vincenzo Nibali, donc je disais, ne gagnera pas son deuxième Tour de France, mais il a au moins gagné l'étape du jour. L'Italien vainqueur à la Toussuire. Chris Froome garde le maillot jaune. Cyril Guimard avec nous à 18h15. Les championnats du monde de natation commencent dans 10 jours à Kazan, en Russie. Florent Manodou sera notre invité à 18h45. Sur 50 mètres nage libre, seul le titre de champion du monde lui manque. Le cœur avec Jules Bianchi, la tête à la compétition, c'est le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie ce week-end. Nos experts F1 sont là à 18h30. On l'avait presque oublié, Lassana Diarra à l'OM, le milieu de terrain signe à Marseille. Est-ce le coup du mercato ou un pari risqué? On va en parler à 20h30. Et puis les instances du football français se déchirent et le foot amateur trinque. Éric Thomas, le président de l'association du foot amateur, sera notre invité. Tout de suite, c'est l'Actu Sport et c'est avec Guillaume Laniel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Le Tour de France, première victoire italienne aujourd'hui.
Oui, l'Italien Vincenzo Nibali a signé un numéro magistral en s'imposant en solitaire dans la 19e étape. On retrouve sur la ligne d'arrivée Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Mais salut Guillaume.
C'était le sursaut d'orgueil du requin de Messine aujourd'hui.
Hein. Effectivement, Vincenzo Nibali, bien décevant depuis le départ de ce Tour de France. Lui qui a connu beaucoup de soucis et qui, avec son orgueil de champion, a voulu répondre aujourd'hui, a voulu montrer qu'il n'était pas un pseudo fantastique, mais bien un grand champion. Nibali qui a donc attaqué aujourd'hui, qui a réussi à creuser les écarts sur le groupe maillot jaune, qui a profité d'ailleurs dans l'ascension, l'avant-dernière ascension de la journée, d'un saut de chaîne de Froome pour attaquer, et plus personne ne l'a revu. Nibali qui a bien géré sa course, qui est revenu sur Pierre Roland avant de s'envoler dans la dernière ascension vers la Toussuire. Il s'impose ici avec 44 secondes d'avance sur Quintana, et oui, Quintana a osé attaquer, mais bien trop tard pour creuser des écarts et pour tenter de reprendre le maillot jaune des épaules de Christopher Froome. Quintana qui s'impose tout de même avec 30 secondes d'avance sur Christopher Froome et qui va effectuer un petit rapproché au classement général. Il reste deuxième, mais il est désormais à 2 minutes 38 de Christopher Froome. À noter également le beau rapproché de Nibali, désormais quatrième, qui passe devant Contador et Geraint Thomas. Et puis la neuvième place de Romain Bardet, qui va en plus porter le maillot de meilleur grimpeur demain sur les routes de la dernière étape de montagne. Romain Bardet qui prend la tête du classement de la montagne pour 3 petits points devant Christopher Froome. Il faudra tenter de le conserver demain. Ce sera une autre paire de manches.
Et t'en parles à Christophe. Romain Bardet, effectivement, il est en train de soigner son tour. Il est désormais le meilleur français au classement général, 9e à 14,08 du leader qui est donc toujours Christopher Froome.
Allez, on passe tout de suite au football.
RMC, le Mercato Show.
Et 24 heures après la crise du football français, on va parler de choses plus réjouissantes aujourd'hui avec l'actualité des transferts avec Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Bonsoir Guillaume.
Et l'Olympique de Marseille qui réalise un beau coup avec l'arrivée de l'ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid, Lassana Diarra.
Oui, l'OM a décidé d'accélérer son mercato. L'Olympique de Marseille a trouvé un accord avec le milieu de terrain Lassana Diarra. Le joueur va s'engager pour 4 ans avec l'OM. Diarra a privilégié l'offre olympienne à celle du club turc de Fenerbahçe. Il était libre depuis son départ du Lokomotiv Moscou il y a 11 mois. L'international français formé au Havre s'entretenait physiquement à New York, puis avec West Ham et l'Inter Milan. Il est arrivé sur Marseille avec une autre future recrue, Javier Manquillo. Lui qui devait signer la saison prochaine va s'engager avec l'OM en prêt avec option d'achat. Le joueur faisait partie de la liste de Marcelo Bielsa. Il vient en concurrence de Brice Diadié. L'arrivée de Manquillo pourrait remettre en cause le dossier d'un des deux Argentins qui devait rejoindre l'OM, Roncaglia ou Casco. Les deux joueurs passent actuellement la visite médicale à Marseille depuis la fin de journée. Diarra et Manquillo, ce sont les deux futurs recrues de l'Olympique de Marseille.
Merci Mohamed, ça commence à s'animer du côté de l'Olympique de Marseille. On vous rappelle que toutes les infos Mercato sont à retrouver évidemment sur rmcsport.fr.
La France ne sera pas tête de série pour le tirage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.
C'est la mauvaise nouvelle de la journée. Même si on s'y attendait, les joueurs de Didier Deschamps ont été placés dans le pot numéro 2, ce qui signifie, Loïc Lefort, que les qualifications pourraient être compliquées.
Et oui, car les Français pourraient tomber sur l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou encore les Pays-Bas, autant dire des gros morceaux. Et clairement, les Bleus peuvent s'en vouloir. Les deux défaites en match amical face à l'Albanie et la Belgique ont fait chuter la France à la 22e place du classement FIFA. La voilà désormais dans le chapeau 2 et elle doit s'attendre à tomber sur du lourd, à moins d'un tirage clément, car dans le premier chapeau, on retrouve aussi le Pays de Galles, la Croatie ou la Roumanie, des équipes bien plus abordables.
Ce serait pas mal d'avoir ces formations effectivement pour l'équipe de France, merci Loïc. Et puis en marge de ce tirage, le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, a laissé entendre qu'il pourrait quitter son poste après l'élection du prochain président en février 2016. Un dernier mot de foot pour vous dire qu'en amical, le Real Madrid a écrasé Manchester City 4-1 avec un but de Karim Benzema.
Karim Benzema, voilà, enfin de retour sur les terrains, parce qu'on l'a beaucoup vu ailleurs cet été. Là, il est avec le Real Madrid. On dispute ce week-end la 10e manche du championnat du monde de Formule 1.
Avec le Grand Prix de Hongrie qui va se dérouler, on en a longuement parlé, hein, dans un climat très particulier, une semaine après le décès de Jules Bianchi. On va rejoindre l'envoyé spécial d'RMC à Budapest, Louis Amar. Bonjour Louis.
Bonsoir Guillaume.
L'actualité du jour, hein, ce sont les deux séances d'essais libres dominées sans surprise par les Mercedes.
Et en particulier par Lewis Hamilton qui a dominé sans forcer les deux séances de la journée sous une chaleur étouffante, près de 60 degrés sur la piste. Moins de réussite en revanche pour son coéquipier Nico Rosberg, deuxième ce matin mais seulement quatrième et déçu cet après-midi. Parmi les faits marquants de la journée, une surprise et une frayeur. La surprise, c'est la bonne tenue des Red Bull, Kvyat deuxième, Ricciardo troisième de la seconde séance. La frayeur, c'est pour Sergio Pérez, le pilote Force India. Accident très spectaculaire ce matin, tête à queue tonneau, le Mexicain a mis du temps à sortir de sa monoplace, mais il est apparu sain et sauf. Quant au Français Romain Grosjean, il n'a pas roulé ce matin comme chaque vendredi, c'est dans son baquet au troisième pilote Lotus, Jolyon Palmer. En piste cet après-midi, il n'a signé que le 15e temps de la séance, prémisse selon lui d'un nouveau week-end de galère.
J'ai bien peur que ce soit un week-end difficile. La voiture n'était pas simple à conduire, on a souffert de réglages qui n'étaient pas optimaux pour la piste, mais voilà, on a pris maintenant l'habitude de se poser le vendredi soir et d'avoir des grosses discussions pour faire des changements assez conséquents pour le samedi matin.
On espère que ça va aller mieux. Merci infiniment Louis Amar, donc en direct de Budapest. Le Grand Prix, on vous le rappelle, à suivre évidemment sur RMC ce dimanche à partir de 14h. Et puis un dernier mot de F1, le business book GP, la bible de la F1, Virginie, a publié les salaires des pilotes. Je sais que ça vous plaît bien. Le mieux payé, Fernando Alonso, qui touche 35 millions d'euros chez McLaren. 35 millions d'euros.
35 millions
c'est
d'euros.
C'est pas mal.
Romain Grosjean, 4 millions.
Ouais, 4 millions, effectivement, pour Romain Grosjean, que l'on vient d'entendre. C'est quand même pas mal également pour le pilote tricolore.
RMC, France Olympique.
En athlétisme, la Ligue de Diamants reprend ses droits ce soir, c'est le meeting de Londres.
Et le plateau est relevé à moins d'un mois des championnats du monde qui se dérouleront à Pékin. Côté français, on retrouvera ce soir Pascal Martino-Lagarde, Renaud Lavilloni, Kevin Menaldo et celui qui pour le moment a réalisé un été époustouflant, Jimmy Vico. Le sprinteur français prendra part aux 100 mètres et défiera ce soir la star jamaïcaine Usain Bolt. L'homme aux 6 titres olympiques va effectuer son grand retour après 6 semaines d'absence. Maureen Le Haut, bonjour.
Bonjour.
C'est peu de dire que le retour du Jamaïcain va être scruté ce soir.
Et c'était le cas dès hier avec cette salle bondée pour sa conférence de presse. Oui, l'attente est énorme autour du Jamaïcain qui n'a plus couru un 100 mètres en compétition officielle depuis 2 ans. La faute à des pépins physiques à répétition, mais pour Pierre Carraz, l'entraîneur de Christophe Lemaître, Bolt peut encore revenir.
Je ne dis pas qu'il fera 9,59 encore. Mais bon, 9,70, c'est dans ses cordes. Moi, je pense qu'il a des blessures, mais il est aussi un peu fainéant, quoi. Il l'a vécu sur ses lauriers, il est pas besoin de beaucoup s'entraîner pour dominer le monde. Maintenant, Gatine est là, avec des temps qui sont, ma foi, très bons. Hein. Il ne peut pas se permettre de se faire battre par Gatine.
Parce qu'en son absence, Justin Gatlin est bien devenu le nouveau maître de la discipline, invaincu depuis 20 courses, 4 fois sous la barre des 9,80. Forcément, à côté, Bolt fait pâle figure avec un seul 100 mètres cette saison pour un temps de 10 secondes et 12 centièmes et seulement la 62e performance mondiale. Mais il en faut plus pour déstabiliser l'homme le plus rapide du monde. Hier encore, il déclarait « Je ne projette pas de perdre, je ne doute jamais de moi ».
Merci Maureen. Finale du 100 mètres donc à suivre ce soir avec Jimmy Vico et Usain Bolt. RMC, on vous le rappelle, partenaire de l'équipe de France Olympique.
En rugby, il y a eu une journée de repos bien méritée pour le 15 de France et maintenant les joueurs reprennent leur préparation à Tignes.
Exactement, et les Bleus ont renoué avec leurs habitudes. Au programme du jour, musculation, point presse et du rugby, bien évidemment. Arrivé à Tignes le 14 juillet, les joueurs de Philippe Saint-André ont transpiré, ont découvert pour certains les joies de l'alpinisme. Alors on pourrait se dire qu'à 2 jours de la fin du stage, le plus dur est passé. Eh bien pas forcément, Laurent Desprez.
Et oui, là où le commun des mortels aurait tendance à se relâcher, quand ça sent l'écurie, quand on se réjouit à l'avance de retrouver son confort, les siens, le repos, les sportifs de haut niveau, non. Alors pour les rugbymen en pleine préparation à la Coupe du Monde, chaque heure compte. Le troisième ligne et capitaine de Clermont, Damien Chouli, ce matin, ne disait pas autre chose.
Il reste encore 2 jours et demi. Hein, 2 jours et demi, on sera libéré que dimanche midi. Et 2 jours et demi de physique, hein, on va pas du tout baisser l'intensité. Donc à mon avis, ça va être les 2 jours et demi les plus durs du stage. On va sûrement en tirer le bénéfice et aller chercher encore plus loin pour être en forme physiquement.
Une concentration sur les derniers instants amplifiée par la concurrence. Dans un mois, 5 joueurs seront éliminés du groupe. Il faut taper dans l'œil du staff et garantir sa place.
Laurent Desprez, envoyé spécial d'RMC à Tignes.
Les championnats du monde de natation s'ouvrent aujourd'hui à Kazan, en Russie.
Ouais, seules les épreuves de plongeon débutent d'ailleurs ce vendredi. Pour les épreuves en bassin, il faudra attendre le 2 août. Pour l'heure, l'équipe de France de natation a pris ses quartiers à l'INSEP, aux côtés des Bleus du basket. Dernière ligne droite pour l'équipe de France qui s'envolera mardi pour la Russie. C'est donc dans le temple du sport français que Fabien Gillot et ses coéquipiers effectuent leur dernière longueur avec des faux airs de village olympique.
J'aime bien moi qu'on soit ici parce qu'on a croisé les potes du basket, on a rigolé pendant deux jours, on croise encore les athlètes, j'ai l'impression d'être, c'est loin de ce que peut représenter les Jeux, mais une mini famille France, là, quand t'es ici à l'INSEP, tu croises un peu tous les autres sportifs, donc c'est sympa, je pense que ça fait du bien aux plus jeunes, un peu de voir ce que les autres sports font à l'entraînement, on a été voir un peu le basket et qu'ils voient un peu les infrastructures et peut-être qu'ils ressentent un peu mieux ce que peut représenter une vraie équipe de France olympique.
Fabien Gillot avec Julien Richard, les suites de l'affaire Erwin Engapet. La star de l'équipe de France de volleyball accusée d'agression sur un contrôleur de train sera jugée en novembre pour violence. Le Français a contesté les faits dans un communiqué. Et puis en tennis, fin de parcours à Bastad pour Paul-Henri Mathieu, battu en quart de finale par Tommy Robredo. Benoît Paire, lui, est en demi-finale. On en parlait hier, il est bien en demi. Après sa victoire face à Istomin, c'est sa première demi-finale depuis octobre 2013.
Merci Guillaume, à tout à l'heure à 19h pour l'actu sport. Tout de suite c'est le récap course avec Sébastien Darras et Cédric Quietta de Génie Course. Bonsoir messieurs.
Salut Virginie, les courses qui étaient à Vichy cet après-midi, mais le quintet ça sera ce soir comme tous les vendredis durant l'été sur l'hippodrome de Cabourg. Je vous rappelle simplement ma dernière minute, le 2 Under Your Eyes qui avait bien couru début juillet sur le tracé qui nous intéresse et qui est aujourd'hui à la cote de 20 contre 1. Mon cher Cédric, demain on prend la direction d'Anguin pour un très joli quintet réservé aux meilleurs 4 ans, c'est le prix de Milan. Ils sont 14 au départ.
Bonsoir à tous, j'ai pris un petit outsider, le numéro 4, Big d'Avril, qui vient de faire sa rentrée sur les forums de la Capelle. Auparavant, il a toujours bien figuré dans cette catégorie, donc voilà, pourquoi pas pour compléter des jeux de combinaison, le 4 Black d'Avril.
Et si on veut tenter un coup de poker, on peut penser au 13 Usage Josselin qui monte de catégorie, mais c'est logique, hein, elle a couru deux fois en France, s'est imposée à deux reprises en étant assez impressionnante. Et puis bien évidemment, la favorite de cette épreuve sera le 3 Billy de Montfort, confié à Eric Raffin, et ça tombe bien puisque son entraîneur Sébastien Garato sera avec nous demain dans les courses RMC, bien évidemment, comme tous les samedis de 13 à 14h.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et dans un instant, on va aller à la Toussuire avec Cyril Guimard en Russie, ensuite avec Florent Manaudou et en Hongrie avec nos experts F1. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour. RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
18h18, l'Intégral Tour jusqu'à 21h. On s'arrête à la Toussuire dans les Alpes avec Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir à tous.
Après la victoire de Vincenzo Nibali dans cette 19e étape, il était en perdition en début de tour. Et puis là, clairement, c'est le plus dangereux des rivaux de Chris Froome, hein, Nibali.
Oui, enfin, à quelques portées d'arquebuse quand même. Bon, on ne faudrait peut-être pas lui laisser la bride sur le cou demain, mais demain sera un autre jour. Eh bien, Nibali, il a fait une française aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a deux jours, c'était Thibaut Pinot. Malheureusement, lui, il se ratait avec une chute, mais il avait tout fait pour essayer de sauver son tour. Bardet, hier, lui, il a mis au fond. Ça a été une superbe étape. Il a aussi sauvé son tour. Il a d'ailleurs continué. Et puis aujourd'hui, c'est Nibali qui a dit « Je sauve mon tour ». Donc, j'ai presque envie de dire les seconds couteaux, si on peut parler de seconds couteaux, surtout par rapport à Nibali, eh bien, en remportant une étape, sauvent leur tour et pourront repartir chez eux la tête haute.
Et alors, celui dont on disait qu'il était le rival le plus dangereux de Chris Froome, Nairo Quintana, alors, au départ, on disait qu'il n'avait pas les jambes. Finalement, il les avait, mais pourquoi il attaque à 5 km de l'arrivée? Ça sert à quoi, en fait?
C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que là, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé dans cette étape. Il y a eu le col au départ, hein, le col du Chaussy, où il y a eu une bagarre formidable, les équipiers de Froome explosent. Et puis derrière, il y a eu une neutralisation jusqu'à 5 km de l'arrivée. C'est-à-dire que la croix de fer n'a servi à rien, le mollard n'a servi à rien, sinon que de permettre à Nibali de prendre les devants et d'aller chercher une victoire d'étape. Mais les leaders se sont regardés jusqu'à 5 km de l'arrivée. Il était prenable aujourd'hui. Ou alors il a bluffé en laissant Quintana lui prendre une trentaine de secondes, il en a suffisamment comme cela, et en disant bon, on va pas m'accuser de que j'ai un moteur ou que j'ai des watts en plus.
C'est une possibilité, ça, que la Sky lui a dit non, faut pas trop écraser le tour non plus.
Ben on peut se poser la question parce que pourquoi il n'attaque pas plus tôt? On sent dans un peloton, dans un groupe comme ça, au fil des kilomètres, si votre adversaire direct, il est aussi bien que d'habitude ou pas, vous le sentez. Or là, ils n'ont rien senti. Alors, est-ce qu'ils n'ont rien senti parce qu'il n'y avait rien à sentir, ou est-ce que n'avaient pas non plus les jambes pour attaquer et qu'ils ont tenté un petit coup juste sur le final? J'ai du mal à comprendre. Et puis, d'un autre côté, si on veut vraiment gagner le tour, on a deux coureurs qui sont deuxième et troisième au classement général. Il y a un moment, faut en sacrifier un. C'est-à-dire qu'au minimum, dans la dernière montée, il fallait mettre Valverde à la barre et essayer effectivement de tester si Froome était bien ou pas bien, ou un petit peu moins bien. Et là, les écarts auraient été plus importants, parce que si on sent que à 8 ou 10 km, 10 km de l'arrivée, que Froome n'est pas bien, c'est pas 30 secondes, ça peut être une 30. Or ça n'a pas eu lieu, puisque dans cette dernière ascension, et c'est là où je suis un petit peu dépité, c'est que on voit qui rouler derrière Nibali, on voit un équipier de Contador, Machka, parce que tout simplement Contador a sa quatrième place qui est en danger. C'est-à-dire que c'est même plus le classement général qui roule, enfin le classement général pour la victoire que l'on roule dans cette dernière ascension, c'est Quintana, Contador, qui fait rouler un équipier pour lui sauver sa quatrième. Il n'y arrivera d'ailleurs même pas. C'est-à-dire que même en roulant derrière Nibali, il ne reprenait pas de temps. Il y a un moment, il faut savoir de quoi, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et pour moi, aujourd'hui, je suis désolé, mais Movistar veut sa deuxième place et sa troisième, ou ils veulent la gagne?
Visiblement, la gagne, ça les intéresse pas.
Ils veulent faire deux et trois.
Ah voilà, c'est aussi la consigne qu'on a pu leur donner dans leur équipe, c'est il faut finir sur le podium, parce que de toute façon, il y a que ça qu'on peut faire.
On peut se poser la question, mais c'est pas ce que nous, commentateurs, et c'est peut-être pas ce que les spectateurs attendent d'une vraie course, ils attendent un vrai combat. Eh bien, ce combat n'a pas eu lieu.
Mais il y a quand même eu l'animation grâce à Vincenzo Nibali. Patrick nous appelle au 32-16. Bonsoir Patrick.
Bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Eh bien, écoutez, moi je vais dire chapeau Vincenzo, parce que Vincenzo, au moins, il a fait éclater un peu l'étape. Il a eu une attitude de grand champion. Il nous a démontré qu'il avait du panache, non pas pour gagner le tour parce que c'est trop tard, mais au moins il nous a démontré qu'il avait du panache et que lui faisait au moins quelque chose. Il a essayé plusieurs fois de suite de démarrer. Bon, bah, il, à un moment, il a démarré, alors on pourrait toujours nous dire oui, parce qu'il y avait le dérailleur qui avait sauté. Moi, je vais pas rentrer là-dedans, il a essayé avant de démarrer. Donc, il est parti, il nous a fait un grand show, et bravo à lui. Ce que je trouve un peu triste, déplorable, et où ça me contrarie, c'est que l'étape gagnée par Froome lui a fait gagner le Tour de France, c'est tout. Et là, ils n'ont pas été vigilants, ils ont été peut-être
dépassés,
voilà, et jusqu'à maintenant, on les voyait un peu tétanisés, dépassés par Froome. Donc, cette attaque de Nibali, il n'y a plus qu'une étape encore demain, dans la dernière étape des Alpes, mais il aurait fallu peut-être essayer avant, parce qu'il était quand même prenable. Bien évidemment, cette étape lui a fait gagner le tour, il n'a plus rien fait après. Il a des compagnons de route qui le protègent bien, qui le mènent bien, lui, il va tranquille. Mais bravo Nibali, hein. Nibali a fait vraiment quelque chose de très bien aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir, je ne suis pas le seul. C'est un grand champion, vraiment un grand champion. Quant à nos coureurs français, ce sont aussi de grands champions. Toute cette jeune génération, elle est belle à voir, ils se démènent, ils se débattent, ils sont très très bons coureurs, très bons descendeurs. Et on a pour l'avenir, moi je pense, de vrais coureurs, de vrais champions pour les Français. C'est très beau aussi, ça. C'est très beau.
Merci beaucoup, Patrick, d'avoir appelé le 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. Alors oui, on peut se féliciter que Vincenzo Nibali ait attaqué aujourd'hui. On peut aussi se dire, Cyril, que la Sky ne réussit pas tout, hein, parce que Geraint Thomas en perdition aujourd'hui.
Oui, mais c'est logique, un petit peu à l'image de Tony Galopin, qui était en sur-régime dans les Pyrénées, dans les Grands Cols. Geraint Thomas était lui aussi sur coussin d'air sur ce tour. Et puis, ben, il y a un moment, quand on n'est pas un vrai, vrai grimpeur, même si on est capable de faire des exploits dans la montagne, il y a un moment, vous payez l'addition. Et c'est tout à fait logique. Vous savez, il y a quand même des règles, il y a des réalités, il y a un rapport poids-puissance qui fait que si vous êtes en super condition, ben, vous arrivez à passer, vous vous tapez dedans, mais il y a un moment, ben, d'un seul coup, l'organisme fait stop, et ça a été le cas aujourd'hui pour Geraint Thomas. Ben, c'est la logique, c'est logique qu'il saute. J'ai presque envie de dire, ça aurait pas été logique qu'il fasse quatrième ou cinquième du Tour de France.
Oui, c'est-à-dire que la Sky est un petit peu en difficulté aujourd'hui, mais bon, au final, Chris Froome va quand même s'imposer.
Vous savez, c'est Nibali qui fait sauter la Sky. Parce que ce matin, là, sur le col du Chaussy, qui c'est qui a mis en route? C'est Nibali. Oui. Aidé un moment par Contador, mais aussi les équipiers de Nibali. Et c'est eux qui ont fait exploser toute la garde Sky. Ils sont revenus après, avant le col du Glandon. Mais dans le Glandon, qui c'est qui a remis en route encore? Ce sont les équipiers de Nibali. Il a mis une première banderille, puis après il en a mis une vraie. Alors c'est vrai, c'est au moment où Froome a eu son petit souci. Bon, un tout petit souci, il a perdu 4 ou 5 secondes, c'est tout. Bon, mais Nibali est ressorti à ce moment-là. Attends, il avait décidé de faire l'étape, il avait décidé de gagner l'étape, il a mis ses coureurs, il a mis ses équipiers au charbon toute la journée. Attends, il y a un moment, il faut aussi respecter ses propres équipiers, et il est attaqué. Il y avait, comment qu'il s'appelle, Pierre Roland qui était devant, bon, il a géré derrière, il est revenu le chercher, et puis bon, Roland était au bout du rouleau, il ne pouvait de toute façon pas aller jusqu'à l'arrivée. Mais Nibali, il a fait le boulot aujourd'hui, alors que je suis désolé pour les autres, personne n'a fait son boulot.
Merci beaucoup, Cyril, ils ont
même pas fait le spectacle.
Merci beaucoup Cyril, un petit peu déçu aujourd'hui après cette étape. On va te retrouver à 19h auprès de Christophe Cessieux, de toute l'équipe, pour les débats du Tour. Nous, dans un instant, on sera avec Louis Amar et Jean-Luc Roy pour les experts F1.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 18h30, on est ensemble jusqu'à 21h, et qui dit 18h30 dit heure des experts F1.
RMC, les experts F1.
Ils sont là, ils sont prêts pour le Grand Prix de Hongrie ce week-end. Louis Amar sur le circuit à côté de Budapest et Jean-Luc Roy, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Bonsoir Virginie, bonsoir Louis, salut à tous.
Alors on va commencer Louis par un petit point météo parce que ça peut avoir son importance. Il fait une chaleur absolument harassante, n'est-ce pas?
Le mot qui convient c'est étouffant si tu veux. Il fait 34 degrés dans l'air, sauf qu'il n'y a absolument pas de vent. Donc faire 5 pas dehors est déjà une épreuve. Et la température sur la piste était cet après-midi de près de 55 degrés. Autant vous dire que dans les monoplaces on approche des 70.
Jean-Luc, qu'est-ce que ça change ça pour les pilotes? Est-ce qu'ils se fatiguent plus vite? Est-ce que c'est plus difficile pour leur concentration?
Alors oui, pour ce qui concerne les pilotes, effectivement, de toute façon, le fait d'évoluer dans ces conditions-là, de surcroît avec des lourdes combinaisons unifugées, c'est évidemment un exercice très très périlleux. Bon, surtout en course, pour les tours d'essai, pour les qualifs, c'est un bref effort à fournir. Mais oui, on est dans un environnement qui est extrêmement chaud. C'est vrai que ça peut perturber. Puis il y a des détails qui peuvent finir par compter. On transpire énormément sous le casque et sous la cagoule, et les gouttes de sueur viennent tomber dans les yeux des pilotes. Évidemment, il n'y a aucun moyen pour les essuyer. Donc oui, ça peut avoir des conséquences.
On va écouter...
Oui, pardon Virginie, juste un mot encore sur la météo, parce que au-delà de la chaleur étouffante, ce qui peut se produire également en Hongrie, et ce qui arrive souvent, ce sont de très violents orages. Il y en a eu un hier, notamment, hier soir, ça a duré 5 minutes, mais c'était tropical. Il a plu à verse, beaucoup de vent, et donc ça aussi, ça peut évidemment influencer la course si jamais il devait y en avoir un dimanche.
Et d'ailleurs, Romain Grosjean, par exemple, le pilote Lotus, redoute un peu la chaleur, on va l'écouter.
C'est l'été, ça sera la canicule sur les casques. On annonce 36 ou 37 degrés pour samedi pour la qualification, un petit peu moins pour dimanche, mais c'est vrai que ça va être des conditions très difficiles où il faut garder sa lucidité dans des voitures qui sont proches des 70 degrés.
Alors oui, tout le monde la redoute un peu, cette chaleur. Est-ce que ça peut avoir une influence sur la course? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pilotes qui supportent ça mieux que d'autres? Et est-ce que au final, là, ça peut changer quelque chose pour le Grand Prix?
Ça peut, parce que il faut notamment penser aux pilotes qui découvrent ce circuit, ces très hautes températures. Il y a beaucoup de rookies cette année. On pense par exemple aux deux de l'écurie Toro Rosso, Max Verstappen et Carlos Sainz. C'est sûr qu'il faut une sacrée expérience pour gérer cela, parce que ce sont des conditions vraiment extrêmement difficiles.
Je rajouterai un mot, c'est qu'il s'agit d'un chaudron en fait, parce que le circuit est tracé au fond d'une cuvette, qui est donc dans la banlieue de Budapest, et l'air, comme le soulignait Louis, ne parvient pas vraiment dans la cuvette. Donc c'est un véritable chaudron que les pilotes doivent affronter, et c'est vrai, tu le disais, un pilote peut perdre une partie en tout cas de sa lucidité parce qu'il est confronté à une chaleur extrême.
Et puis bon. Ça veut dire qu'il faut faire très attention au problème de gourde. Alors ça paraît anodin comme ça, mais on se souvient il y a quelques années d'un pilote dont la gourde s'était percée et qui était sorti chancelant, pantelant de sa voiture au bord de tomber dans les pommes parce qu'il n'avait pas pu s'hydrater suffisamment, il avait perdu trop de litres d'eau en course.
Bon, alors rassurez-moi, ça va pas tout changer non plus. A priori, les Mercedes restent favorites.
Ça, je pense, oui. Je pense que les Mercedes n'auront pas trop à souffrir de la chaleur, en tout cas pas davantage que les autres pilotes. Franchement, il n'y a pas de raison, sachant que Mercedes a remporté 8 courses sur 9, que ça ne soit pas le cas ce week-end à nouveau.
Oui, puis on peut rajouter qu'évidemment, après, il y a l'exploitation mécanique. Alors, que je sache, les moteurs Mercedes, où qu'ils soient implantés d'ailleurs, n'ont a priori pas du tout souffert de surchauffe, de chaleur, de problèmes de composants électroniques, même si ici ou là on a pu y assister, alors que ça n'est pas le cas de la majorité de leurs rivaux. Et on pense évidemment à Renault, qui est toujours dans la difficulté. Alors même si les Red Bull et les Toro Rosso n'ont pas trop mal fonctionné dans ces débuts d'essais libres, on va voir ce qu'il en est en course. Et puis surtout, la température de fonctionnement des pneumatiques. On sait que c'est une fenêtre étroite. Alors pour le coup, Louis le disait, avec 55-60 degrés sur la piste, la fenêtre de fonctionnement des pneumatiques, c'est de l'ordre de 110 à 115 degrés, mais il ne faut pas aller au-delà non plus.
Alors, pour Nico Rosberg, par exemple, ce circuit présente quelques difficultés. Il n'est jamais monté sur le podium au Grand Prix de Hongrie.
C'est un fait inédit quand même. Nico Rosberg, ça fait quasiment 10 ans qu'il est en Formule 1. Il a commencé en 2006 chez Williams. Et jamais, effectivement, il n'est monté sur un podium ici en Hongrie. Il serait vraiment bien inspiré de le faire ce week-end. Parce qu'après une embellie pour Nico Rosberg, Lewis Hamilton a repris la main il y a 3 semaines à Silverstone avec une belle victoire dans un Grand Prix complètement fou. 17 points d'avance désormais pour Lewis Hamilton au classement des pilotes du championnat du monde. Bien sûr, ça n'est pas une avance irrattrapable. Nico Rosberg peut revenir sur Lewis Hamilton. Mais avant la trêve, il serait bien qu'il marque des points. Et il l'a dit d'ailleurs encore cette semaine, Nico Rosberg, je peux battre Lewis, je suis aussi fort que lui. On n'est pas loin, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas.
Jean-Luc, est-ce que Nico Rosberg est aussi fort que Lewis Hamilton?
Ça, c'est la bonne question que tu me poses. Écoute, tu veux vraiment mon avis? Eh bien non. Moi, je pense que Lewis Hamilton est le pilote le plus rapide aux commandes d'une Mercedes. En tout cas, ça, c'est une certitude. Il devance toujours un petit peu Nico. Louis vient de le rappeler, mais en termes de pôle, hein, c'est quasiment écrasant, puisque Lewis a signé toutes les pôles à part celle de Nico, et c'était en Espagne. Donc, c'est dire que sa domination est totale. Et on sait que c'est un avantage déterminant, particulièrement ici en Hongrie. C'est dire que si Lewis, et il y a de fortes probabilités, signe la pôle et qu'il prend un bon départ, le Grand Prix de Hongrie risque d'être très long, notamment pour Nico Rosberg.
Parce qu'il faut préciser, Virginie et Jean-Luc, que ce tracé est un tracé assez comparable à celui de Monaco, par exemple, où il est extrêmement difficile de dépasser. Donc l'essentiel de la course du dimanche se joue quasiment en fait le samedi, lors des qualifications, parce que l'ordre établi à l'issue de cette qualif est extrêmement difficile à bouleverser.
Ah oui, donc une fois que c'est fait, plus personne ne doute personne, quoi.
Alors, sans doute, oui, effectivement, on peut rappeler quelques. Je me souviens d'un Grand Prix auquel j'avais assisté avec Thierry Boutsen, justement, qui tenait derrière lui 6 à 7 pilotes absolument hystériques qui essayaient de l'attaquer dans tous les virages. Eh bien, Thierry Boutsen est parvenu à remporter le Grand Prix en tenant tout le monde derrière. Alors, il y a eu quelques dépassements extrêmement audacieux. Au hasard, je vais citer évidemment Ayrton Senna dans le fameux freinage au bout de la seule ligne droite, la ligne droite de départ, qui plonge dans un droite. Il était parvenu à passer par l'extérieur, qui est absolument impossible normalement, mais lui avait réussi.
Alors Mercedes domine outrageusement cette saison, hein, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement s'enrayer?
Alors ça, c'est une vraie bonne question. Ce qui pourrait perturber sans doute la marche des Mercedes, eh bien, c'est si le duel à couteau tiré ressurgissait entre ces deux têtes d'affiche finalement. Peut-être que le pire ennemi de Mercedes, c'est Mercedes elle-même, et la bataille entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton, qui peut finir par devenir fratricide, parce que Rosberg a un peu le sentiment d'avoir mangé son pain noir la saison passée en n'étant pas champion du monde, alors qu'il a vraiment failli l'être et qu'on a cru longtemps qu'il le serait. Il pense que son tour est arrivé, et en même temps, Lewis Hamilton, lui, a subi quelques fautes stratégiques de Mercedes. On pense à celle de Monaco, on pense à celle de la Malaisie notamment, qui lui avait coûté les victoires. Et franchement, cette rivalité peut devenir un problème pour Mercedes, mais c'est clairement le seul grain de sable qui peut venir enrayer cette belle mécanique à mon sens.
Et Jean-Luc, on a déjà vu Lewis Hamilton, disons, ne pas très bien s'entendre avec ses coéquipiers, quels qu'ils soient, hein, parce que c'est pas la première fois que ça se passe pas très bien. Et donc, on se dit, ça va arriver à nouveau, là, forcément, cette saison, si tout va trop bien.
Écoute, ça, c'est toujours la marque des grands champions. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai qu'en général, ils ont un ego surdimensionné. Qui dit ego surdimensionné dit nécessité de dominer tout le monde, à commencer par son équipier qui dispose évidemment du même matériel dans la même équipe. Donc c'est évident que ça ne peut pas bien se passer. Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Ça, je te le garantis, après le Grand Prix de Hongrie. Ça, c'est certain. En plus, les personnalités des deux hommes sont quasiment à l'opposé. Hein, on le sait bien. Ils n'ont pas le même type de distraction. Enfin, on sait que Lewis Hamilton passe, allez, je le dénonce pas, mais passe beaucoup de temps dans les boîtes, en dehors des Grands Prix, évidemment. Il a une vie très mondaine. C'est pas du tout le cas de Nico Rosberg. Donc effectivement, quand il se retrouve sur la piste, et pour corroborer ce que disait Louis, eh bien si malheureusement les deux pilotes choisissaient de prendre la même trajectoire au même moment, tu vois ce qui pourrait se passer, ce serait de l'auto-élimination. Et là, comme l'an dernier d'ailleurs, il y a un certain Daniel Ricciardo ou un autre, hein, ou un certain Sébastien Vettel, ça a été le cas, en début de saison, est capable d'être là pour retirer évidemment les fruits de cet affrontement.
Alors justement, Louis, Jean-Luc, qui pourrait se glisser sur le podium là ce week-end en dehors des Mercedes?
Alors on va surveiller évidemment les Ferrari, la Ferrari de Sébastien Vettel, qui part avec un avantage quand même, parce qu'il a souvent mieux réussi depuis le début de la saison que son coéquipier Kimi Raikkonen. Et puis on va surveiller aussi avec beaucoup d'attention les Williams, dont on attend beaucoup. Les deux pilotes Williams, Felipe Massa et Valtteri Bottas, avaient vraiment animé la dernière course à Silverstone. Ils avaient échoué au pied du podium par des petites erreurs stratégiques, des arrêts au mauvais moment, des mauvaises consignes de course sans doute. Et ils auront à cœur de se rattraper sur un tracé qui peut leur être favorable. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils disent.
Alors, je souscris évidemment à ce que dit Louis, un tout petit bémol, la grosse pression sur Raikkonen, puisque ce sont les infos qui circulent et on le sait, il est quand même un petit peu sur la bascule, donc il va falloir qu'il fasse un résultat, et quand on est fébrile, c'est pas la bonne chose. Et puis d'autre part, il a largement été dominé, comme Louis vient de le rappeler, par Vettel, hein. Le total, 135 points pour Vettel, qui est troisième au championnat, et seulement 76 pour Raikkonen, qui est cinquième. Alors, du côté des Williams, c'est vrai qu'habituellement, c'est l'opposant principal, pratiquement, avec Ferrari, mais elles sont moins bien sur les circuits à fort appui, à gros appui aérodynamique. C'est le cas de Monaco et c'est le cas de la Hongrie. Donc là, quid des Williams, on verra en course.
Alors, à chaque fois, on dit que c'est la dernière chance pour Kimi Raikkonen. Pourquoi là, ce serait vraiment la dernière chance?
Eh bien, c'est simple, Virginie, parce qu'en fait, l'option du contrat de Kimi Raikkonen avec Ferrari court jusqu'au 31 juillet. En clair, d'ici au 31 juillet, Ferrari a le choix de ne pas renouveler le contrat de Kimi Raikkonen, de ne pas lever l'option d'un an supplémentaire ou de la lever. Donc, au 31 juillet, on saura si Kimi Raikkonen sera toujours un pilote Ferrari pour le championnat du monde de Formule 1 2016. Si jamais Ferrari décidait de ne pas le prolonger, ce qui sincèrement semble plutôt être la tendance aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui circulent pour le remplacer. Les rumeurs racontent que Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg ont été approchés. En fait, celui qui tiendrait vraiment la corde, ça serait Valtteri Bottas, quatrième du championnat du monde la saison dernière, révélation de la saison dernière, et qui est aujourd'hui justement devant Raikkonen au classement général du championnat du monde. Il est quatrième.
Alors, je vais terminer avec le fait que les pilotes arborent tous un autocollant en hommage à Jules Bianchi. Jean-Luc, tu étais aux obsèques de Jules, ainsi que beaucoup de pilotes qui étaient là aussi. C'est difficile, hein, forcément, pour eux de reprendre le volant, là, derrière.
Cette cérémonie, mardi, à la cathédrale de Nice, était extrêmement émouvante. Pratiquement tous les pilotes de Formule 1 étaient là, et je peux te dire que beaucoup avaient vraiment les yeux rouges et ne masquaient pas leur douleur. Le moment était poignant, était absolument terrible. On a tous communié, on peut le dire, en pensant et en rendant hommage à Jules, à son talent, bien sûr, mais surtout à l'homme qu'il était, à la personnalité extrêmement attachante. Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, pour moi, la Formule 1 ne sera plus jamais comme avant, un peu après la disparition d'Ayrton Senna. Vraiment, c'est un vide, c'est un manque terrible. Alors maintenant, the show must go on, c'est-à-dire que ce sont des professionnels, ce sont des pilotes. Le danger, on y pense en dehors, mais on n'y pense jamais dès qu'on a baissé la visière et dès qu'on est aux commandes d'une machine. Donc évidemment, et plusieurs l'ont dit, le plus bel hommage que chacun essaiera de rendre à Jules, eh bien, c'est de faire le meilleur résultat possible et de lui dédier ce résultat. Et je suis certain que c'est ce qui se passera après le Grand Prix.
Merci à tous les deux. Les rendez-vous Formule 1 du week-end sur RMC, c'est bien sûr demain à 14h, les qualifs. Et puis dimanche, 14h également, le Grand Prix. Tout ça en intégralité sur RMC. Et c'est Lewis Hamilton, volant de sa Mercedes, qui s'est montré le plus rapide lors des deux séances d'essais libres aujourd'hui. D'ici là, d'ici le Grand Prix de Formule 1 de dimanche, Florent Manaudou est notre invité dans l'Intégral Tour dans un instant.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
18h46, c'est l'Intégral Tour sur RMC jusqu'à 21h sur le plot de départ pour les championnats du monde de natation.
RMC France Olympique.
Florent Manaudou est notre invité. Bonsoir Florent.
Bonsoir.
Alors les championnats du monde de Kazan arrivent, ça commence dans 10 jours maintenant. Ça y est, vous commencez à avoir des fourmis dans les jambes, là vous le sentez?
Ouais, je pense que c'est encore important de récupérer un peu. Si c'est dans 10 jours, c'est qu'on a besoin de 10 jours de récupération encore. Mais on a un peu hâte d'en découdre. C'est sûr qu'on attend toute l'année pour cette compétition. Donc, un peu de fourmis dans les jambes.
Alors vous allez nager le 50 mètres nage libre, le 50 papillon, le relais 4 x 100 mètres. Sur le 50 nage libre, c'est l'occasion de compléter votre palmarès. Hein. Le titre de champion du monde, c'est vraiment tout ce qui vous manque là.
C'est le titre qui me manque et c'est le titre que j'ai envie d'aller chercher. Je délaisse pas les autres courses, mais c'est vrai que c'est la course la plus importante de cette semaine pour moi.
Et par rapport aux autres, oui, c'est vraiment votre objectif principal. Là, vous avez noté la date, vous vous préparez pour ça.
Ouais, je me prépare pour ça. C'est en plus une épreuve qui sera olympique l'année prochaine et c'est là où j'ai gagné à Londres. Donc j'ai à cœur de gagner 50 et de bien me préparer pour l'an prochain, c'est sûr.
Alors, on parle d'il y a 3 ans, quand vous avez remporté 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques, personne vous connaissait ou presque sur la planète natation. Là, 3 ans après, on n'attend que vous, là, à 15 ans, vous le savez.
Je sais que je suis dans la peau du favori parce que j'ai nagé vite cette année et que j'ai fait une bonne préparation. Donc, c'est sûr qu'on m'attend, les gens m'attendent et les adversaires aussi, mais c'est une bonne pression parce que ça va me pousser à aller de plus en plus vite.
Vous aimez bien ça, vous, la pression, Florent Manaudou?
La bonne pression, ouais. Après, je suis pas du genre à céder à la mauvaise pression. Donc, quand on me pousse dans mes retranchements, ça m'aide plus que ça me dessert.
Vous avez un objectif de temps pour ces 50 mètres nage libre? On sait que il y a quelques semaines à Vichy, c'était 21 secondes 61. Vous dites qu'à 15 ans, c'est possible de faire encore mieux.
Ouais, je pense que le titre se jouera vers 21-3, 21-2. On verra là-bas combien ça va nager, mais c'est sûr que je vais nager plus vite et je vais essayer de battre mon record que j'ai fait l'an dernier à Berlin. Donc, voilà, je suis dans les meilleures dispositions pour le faire et j'espère le faire là-bas.
La devise de Coubertin, là, l'important c'est de participer, ça vous convient pas du tout ou finalement?
Ça convient plus aucun sportif de haut niveau. C'est vrai que c'est une ancienne devise et voilà, si on fait du sport, c'est pour gagner et c'est pas pour participer. Je pense que la plupart des sportifs de haut niveau seront d'accord avec moi.
Une question qui va vous agacer, je pense. Pourquoi vous ne nagez pas le 100 mètres nage libre à 15 ans?
Parce que je l'ai pas fait au championnat de France et parce que j'avais pas envie de le faire. J'ai déjà 3 courses et j'ai déjà 2 courses individuelles. Le 100 mètres et la veille du 50 comme aux Jeux Olympiques. Donc, voilà, je préfère me focaliser sur une course où je suis peut-être le meilleur du monde aujourd'hui et essayer de grappiller encore des centièmes pour aller chercher un titre olympique plutôt que d'essayer de grappiller des centièmes pour essayer de faire une finale mondiale sur un 100 mètres.
Alors le 100 mètres, on dit à chaque fois que c'est la distance reine, votre entraîneur, tout le monde vous pousse, a envie de vous voir sur cette distance. Vous, pour l'instant, c'est non, hein.
Je pense qu'on peut pas préparer parfaitement 2 courses. Et je suis très bon dans ce que je fais sur 50, donc pourquoi aller faire un 100 mètres et peut-être délaisser un peu mon 50. Voilà, si je décide de faire ça et que je fais 2-3e place à Rio, je serai un peu dégoûté. Donc je préfère me focaliser sur un 50 et essayer de gagner une course au jeu et au monde.
Florent Manaudou est notre invité sur RMC dans l'Intégral Tour. Quand vous allez arriver à Kazan pour ces championnats du monde, qu'est-ce qui change chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez en mode compétition?
On voit tous les adversaires en fait, on voit toutes les nations, on se sent vraiment dans un championnat du monde quand on voit les Américains, les Australiens, etc. C'est vrai que là on est à l'INSEP, c'est un peu plus cool, il y a une ambiance très sportive, mais mais on se sent pas encore dans un championnat du monde et voilà, le fait de partir mercredi, d'arriver jeudi, je crois que ça va nous faire du bien de voir tout le monde, de prendre possession de l'hôtel et de faire les derniers petits réglages.
Et quand on voit ses adversaires comme ça, vous êtes du genre à tenser un peu les adversaires ou plutôt à être sympa?
Non, on se dit bonjour, on est assez cool entre nous, même si voilà, dans une chambre d'appel de 50 mètres, c'est toujours très différent et il y a un petit peu d'intox, mais avant de monter sur le plot, on est tous très amis. Ouais.
Est-ce que vous vous dites d'ores et déjà, j'ai réussi ma carrière de nageur, ou est-ce que vous pensez qu'il vous manque encore quelque chose pour être comblé et vous dire ça?
Bah, il manque les choses que j'ai envie d'avoir en fait. Donc, il manque le titre mondial parce que je l'ai jamais eu et que j'ai très envie de l'avoir et j'aimerais bien avoir un deuxième titre olympique. Voilà, après dans 15 mois ce sera fini tout ça et on verra où j'en suis. Voilà, ce sera une bonne carrière si j'arrive à gagner ces deux titres et je pourrais continuer très tranquillement et avoir beaucoup moins de pression sur les épaules, c'est sûr.
Alors tout le monde dit que vous êtes un très grand compétiteur. Ça veut dire quoi, Florent Manaudou? Ça veut dire que vous y pensez tout le temps à la victoire? Ça se concrétise comment dans votre vie quotidienne?
Ça veut dire que je déteste perdre, que ce soit au jeu de cartes, à la PlayStation ou en sport, je déteste perdre.
Et même, il paraît que vous vous mettez à la guitare.
Ouais, c'est vrai, je m'y mets un petit peu. Je suis pas un très grand joueur de guitare, mais je vais essayer de m'y mettre l'année prochaine.
Et c'est quoi votre objectif en guitare? Pas d'être champion du monde, forcément, donc de faire quoi? Des concerts?
Non, c'est vraiment pour le fun. J'avais envie déjà de jouer il y a plusieurs années. Mon père a joué de la guitare quand il était jeune et j'ai plein d'amis qui sont musiciens. Donc ça me tentait un petit peu et je trouve ça hyper cool de faire un peu de guitare, de faire autre chose que la natation.
Florent Manaudou, vous avez soutenu Mélanie Hennig, cette nageuse victime d'une agression homophobe. Là, les championnats du monde ont lieu en Russie. C'est un pays où il est encore très difficile d'être homosexuel. Si vous aviez un message de tolérance à faire passer avant ces mondiaux, ce serait quoi?
Bah, je pense que c'est important d'avoir les orientations qu'on veut. Je pense que j'ai fait pas mal de choses, que ce soit les couves de magazine gay ou des shootings avec Fred. On est très actifs sur ce point. C'est un peu dommage de voir encore ça à cette époque. Je trouve que c'est très dommage et voilà, c'est dur, d'autant plus que c'est une très bonne amie qui est venue à Marseille cette année. On a eu de très bons liens, elle et moi, et avec l'équipe aussi. Donc ça nous a beaucoup touchés et je trouve ça très dommage.
Et elle sera bien là à Kazan, ou vous allez aussi la soutenir là-bas?
Ouais, elle sera là. Elle s'est qualifiée sur 50 papillons. Sa distance fétiche, elle a fait 3e au championnat du monde en 2011. Donc c'est une grande compétitrice et je pense que voilà, le fait de voir un peu autre chose, ça va lui faire du bien et ça peut un peu la pousser aussi, qu'on soit tous derrière elle. Elle peut faire quelque chose de bien.
Merci Florent Manaudou. À bientôt sur RMC.
Merci à vous.
Julien Richard, notre spécialiste natation, est avec moi en studio. Salut Julien.
Salut Virginie, salut à tous.
Alors Florent Manaudou, on vient de l'entendre, c'est la meilleure chance de titre pour les Français à 15 ans, mais c'est pas le seul.
Oui, il y a Camille Lacour par exemple, qui était titré lui aussi il y a 2 ans à Barcelone. Alors Barcelone, c'était quand même un cru exceptionnel. 9 médailles, 4 en or. La barre est très haute. On se souvient de la dernière journée de folie avec le doublé sur 50 mètres d'eau, Camille Lacour, Jérémy Stravius. Et puis juste derrière, l'or totalement improbable. Le premier l'histoire pour la France sur le relais 4x100 mètres 4 nages. Alors le DTN, Jacques Favre, ne veut pas se fixer de nombre de médailles. Parmi les chances de médailles, donc, il y a évidemment le 4x100 mètres nage libre. Le premier jour, ça, généralement, ça donne le ton de la compétition. Ils sont champions olympiques du monde et d'Europe en titre, donc un peu champion de tout.
Champion de tout.
En quelque sorte. Il y a les 2-6, donc Camille Lacour, Jérémy Stravius, co-champion du monde en 2011 sur le 100 mètres d'eau. Premier, deuxième sur le 50 mètres il y a 2 ans à Barcelone, donc. On peut avoir, pourquoi pas, une petite surprise sur 100 mètres papillon. Pourquoi pas, avec Mehdi Metalla qui est en grande forme. On peut rêver aussi d'un coup d'éclat de Fabien Gillot, Jérémy Stravius sur le 100 mètres nage libre. Un 100 mètres nage libre très ouvert cette année. Et puis, il y a le relais 4x200 mètres nage libre féminin, qui n'est plus monté sur un podium international depuis le bronze, justement, aux Mondiaux de Barcelone.
Parce que pour les femmes, c'est à peu près tout. Hein. On n'a pas beaucoup, beaucoup de chance, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Il y a quand même Charlotte Bonnet qui réalise une grosse saison. sur le 200 mètres nage libre, mais elle n'a pas de chance, elle se retrouve dans la course du siècle. Il y a un plateau exceptionnel, incroyable sur le 200 mètres nage libre sur sa course.
Alors pour préparer ces mondiaux, les nageurs sont installés à l'INSEP pour quelques jours avant de partir en Russie.
Installation à l'INSEP avant de s'envoler mardi pour Kazan. Ça dure quasiment une journée, hein, le voyage pour aller jusque là-bas, dans le Tatarstan. Alors ils ont pu croiser les basketteurs, ils ont assisté à un entraînement de l'équipe de France de basket qui se préparait jusqu'à aujourd'hui à l'INSEP. Florent Manoudou est même allé voir Jimmy Vico qui s'entraînait aussi avant de partir à Londres, meeting ce soir. Des faux airs de Club France, des faux airs de village olympique finalement pour cette équipe de France avant de partir pour Kazan. C'est pas mal, hein, un an des Jeux de Rio.
Merci beaucoup Julien Richard. Les championnats du monde de natation du 2 au 9 août à Kazan, donc en Russie, ce sera sur RMC, radio officielle de l'équipe de France de natation. Et ce sera sans Christophe Cessieux, ces championnats du monde.
Ah oui, je vais nager, mais dans la piscine ou à la plage, peut-être à ce moment-là.
Un peu moins vite aussi,
Un peu moins vite, mais bon, je vais faire la planche surtout. Ça ira beaucoup moins vite, effectivement. En tous les cas, ici, dans cette 19e étape du Tour de France, ils sont allés vite. Et notamment, Vincenzo Nibali qui remporte sa première étape sur les routes de ce Tour 2015. Nibali, ou l'orgueil du champion retrouvé. Le voyez-vous à nouveau remporter le Tour dans les années à venir? Parce que pour cette année, c'est un peu râpé. En revanche, eh bien, on se demande encore s'il y a du suspense. C'est si Quintana peut reproduire ce qu'il a fait aujourd'hui en prenant peut-être un peu plus de marge et pas en attaquant à 5 km de l'arrivée. Voilà quelques-uns des thèmes que nous aborderons après les infos de 19h avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.